Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
I'm tired of my black men and my black women being shot, being killed by the NYPD. I'm tired of it. I have three black men in my home. I'm tired. I am tired.
The situation here in Santa Monica, California is very fluid. You can see police here now firing tear gas into the crowd. They are trying to push these folks back.
How many more? How many more?
Dans les rues de Washington, ces manifestants continuent de protester contre les brutalités policières et le racisme.
The nation erupted into scenes of chaos.
Earlier today, just a few blocks away, there was looting underway nearby. Police seem to have had enough.
Une scène inimaginable pour l'Amérique. Le Square Lafayette, le petit parc public au pied de la Maison Blanche, est en pleine émeute.
What are y'all doing? Y'all doing nothing! Because that's not gonna bring my brother back at all.
Dans l'épopée des musiques noires, nous avons pris l'habitude de conjuguer l'histoire et son écho musical pour vous narrer des tranches de vie, parfois glorieuses, souvent douloureuses, mais toujours animées par une volonté de comprendre une destinée, un élan créatif qui façonne le paysage multiculturel de notre monde. À une époque où des tensions rejaillissent de toutes parts, il nous a paru pertinent et légitime de prendre un peu de hauteur et d'essayer de dessiner les contours d'un virus bien plus insidieux que le Covid-19 que la planète doit apprendre à maîtriser. Ce virus, ancré dans des réflexes et comportements d'un autre âge, est la manifestation irrationnelle d'une peur, d'une ignorance et d'une impunité trop longtemps tolérée. Ce virus-là s'appelle le racisme. Lui aussi a touché et continue de toucher des populations entières à l'échelle internationale. Cette dérive sociale est tristement la norme dans de nombreux pays. Les États-Unis en sont un exemple frappant. La ségrégation institutionnalisée a fait basculer l'équilibre fragile entre communautés dans la violence et le chaos. Il serait très aisé pour nous de commenter l'actualité et de s'indigner, mais nous avons choisi cette semaine de remonter dans le temps et d'écouter les propos d'un simple citoyen africain-américain rencontré lors de notre dernier séjour à Greenwood, dans le Mississippi. Ce monsieur avait alors ressenti le besoin de nous conter son quotidien et celui de ses aînés. Un quotidien rythmé par les humiliations, les brimades, ponctué par les chants de ses aïeux dans les grandes exploitations de coton du sud des États-Unis. Un quotidien pesant, matiné de blues, qu'il tenait à nous décrire dans le détail pour que nous prenions conscience que la révolte du peuple noir américain que nous observons en ce début du XXIe siècle prend sa source dans le sud profond il y a plus de 100 ans.
Must I be your slave? Baby, baby, baby. How long must I be your slave? You want me to live on, live on? Baby, be your slave.
Notre périple commence dans le Mississippi, là où le légendaire bluesman John Lee Hooker vit le jour en 1917, et là où nous attendait Sylvester Hoover, notre interlocuteur du jour, un chaleureux sexagénaire toujours prompt à raconter sa destinée et celle de ses ancêtres aux visiteurs de passage dans sa région. Il était donc impatient d'accueillir l'équipe de l'épopée afin d'être notre guide dans ce voyage au cœur de la culture noire.
This is the way their house would look. It would look like this, and it would have this odor.
Voilà à quoi ressemblaient les bicoques dans lesquelles vivaient les Noirs. Évidemment, il n'y avait pas de lumière, il y faisait froid, il n'y avait pas l'eau courante. Ces conditions ne pouvaient que leur donner le blues. Ces gens ne survivaient que sur le mince espoir d'être un jour libérés. N'oubliez pas que les lois dites Jim Crow étaient les seules reconnues par les tribunaux blancs. Aucun Noir ne pouvait attaquer en justice un citoyen blanc. Les journées étaient terribles. Les Noirs travaillaient sous l'oppression du maître blanc qui ne se privait pas de les insulter, de les frapper, de violer leurs femmes, de s'en prendre même aux enfants. Malheureusement, les Noirs ne pouvaient pas répondre. Par conséquent, le soir, lorsqu'ils rentraient à la maison, ils chantaient leur malheur et leur espoir d'un jour meilleur. C'est ainsi qu'ils pouvaient faire face à la pression quotidienne. Vous remarquerez que les chanteurs de blues élèvent souvent la voix, car ils sont irrités par leurs conditions de vie. C'était des gens frustrés qui devaient trouver un moyen de souffler un peu. Ils auraient aimé traiter l'oppresseur de trou du cul, mais ils ne s'y risquaient pas. Alors ils chantaient. Je pense donc que le blues fait partie du mouvement des droits civiques. D'autant qu'il y avait des sens cachés dans les paroles des chansons. Ainsi, ils pouvaient communiquer sans que l'esclavagiste ne se rende compte de quoi que ce soit. Laissez-moi vous montrer autre chose. Voici l'un des fameux sacs utilisés par les Noirs pour récolter le coton. Il mesure presque 2 mètres. Une fois rempli, chacun de ces sacs pesait 90 kilos. Pendant des heures, que vous soyez jeune ou vieux, vous deviez traîner ces sacs dans les champs de coton. Les Noirs chantaient donc pour se donner du cœur à l'ouvrage. Tout le monde chantait dans les champs de coton, mais dès que le négrier arrivait, les Noirs se contentaient de murmurer. Et quand l'esclavagiste leur demandait pourquoi ils fredonnaient, ils prétextaient ne pas vouloir être entendus par le diable. En réalité, ils passaient leur temps à critiquer leurs bourreaux. Dans les années 60, quand le mouvement des droits civiques a pris de l'ampleur, la situation des Noirs dans le delta du Mississippi ne s'est pas véritablement améliorée. Le delta est un endroit très singulier dans ce monde.
Everybody was cotton was here in the Delta. And cotton was like gold. Everybody affiliated with cotton got rich, exception of the person that did the back-breaking work.
On ne parle que de coton dans le sud des États-Unis. Dans le Mississippi, le coton est aussi qualitatif que l'or. On pouvait se faire beaucoup d'argent sur une exploitation agricole, à condition d'être blanc, évidemment. Un Noir ne gagnait qu'un dollar par jour. Il commençait sa journée au lever du soleil et la terminait au coucher du soleil. Voilà ce que fut la vie de mes ancêtres. J'ai moi-même connu la ségrégation raciale. Je suis né avant les luttes sociales et raciales américaines. Je suis né en 1957 et comme mes parents et grands-parents, j'ai récolté du coton. J'ai donc ressenti toute la douleur éprouvée par mes aînés. Autour de moi, il n'y avait que misère et désespoir. Je suis né pauvre et je pensais qu'un Noir était nécessairement pauvre. Je ne connaissais rien d'autre que le Mississippi. Seuls les Blancs tiraient profit de l'exploitation du coton. Franchement, ils vivaient comme des rois. Nous, on était là pour s'occuper de leurs enfants, pour faire la cuisine, nettoyer leur maison, etc. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient l'intention de faire évoluer cette situation? Honnêtement, si j'avais eu leur chance, j'aurais peut-être également cherché à préserver ma situation sociale. C'est la raison pour laquelle le mouvement des droits civiques n'a eu un impact dans le delta du Mississippi qu'à partir de 1971. Les Blancs avaient tellement de pouvoir qu'ils contrôlaient la vie de milliers de Noirs américains. On ne pouvait pas quitter cette région. Nous étions piégés.
Because we were sharecroppers.
My baby says you heard that 44 whistle blow. Well, it blow just like ain't gonna blow the blue no more. I got a little cabin, Lord, number 44.
In 1963, we picked 500 bales of cotton.
En 1963, les Noirs ramassaient 500 sacs de coton par jour. Malgré les brimades et les humiliations, mon père se félicitait de ce rendement car il savait qu'il gagnerait un petit peu plus d'argent grâce à cela. Son intention était de pouvoir s'offrir un billet de train pour quitter définitivement cette région. Mais son patron s'arrangeait toujours pour qu'il subsiste une dette à honorer. Comprenez-vous pourquoi ces gens avaient le blues? Ils n'avaient qu'une idée en tête, prendre le train et disparaître.
And that's the way they got the blues out the Delta. They jumped that train, and that's why you hear all the train noises in blues song. But see, he wouldn't let you get out of debt because you was a good field hand. You made a lot of money off you.
C'est aussi la raison pour laquelle il existe beaucoup de titres dans le répertoire blues qui font référence au train de passage. Mon père n'a finalement jamais quitté les plantations du Mississippi, et de fait, ses enfants sont restés à ses côtés. Nous étions liés à son destin car nous ne pouvions subvenir seuls à nos besoins. Ma mère pleurait tous les jours car elle prenait conscience que notre famille serait à tout jamais endettée. Elle espérait que nous gagnerions un peu d'argent grâce aux bonnes récoltes de coton, mais le propriétaire des plantations s'arrangeait toujours pour nous priver de cette mince manne financière. Il nous accordait 2 ou 3 jours pour fêter Noël, mais nous étions tellement frustrés que cette trêve n'apportait que peu de sérénité. Mes aînés ont véritablement vécu des moments très difficiles.
You know, it was just bad time for those people and us, you know.
Yes, I feel so good. I won't forget just the same. Mama told Papa, leave that girl alone. Mama didn't know what that girl was putting down. It was under the boogie. It's got to come out of somehow. Well, I feel so good. I'm on boogie just the same. Oh, Lord.
He would come to the house and say, well, you could go up to the commissary and they'll loan you money.
De temps en temps, on nous autorisait à emprunter de l'argent. Ma mère savait parfaitement qu'elle ne pourrait jamais rembourser, alors elle empruntait le plus d'argent possible. De toute façon, elle était endettée. Mon père se rendait donc dans un petit commerce qui lui versait une somme allouée par le patron et ne cherchait même plus à rembourser cet argent. Au fil des années, nous, les enfants, avons compris qu'il n'était pas nécessaire de trimer comme des forcenés. Il suffisait de prétendre être au labeur tous les jours pour se faire respecter. Comme nous étions convaincus que nous ne touchions pas suffisamment d'argent, travailler intensément n'avait plus aucune importance. Finalement, notre tortionnaire blanc a préféré nous laisser partir, car nous ne récoltions plus que 50 sacs de coton par jour. Il nous fallait alors trouver une autre plantation, car nous n'avions évidemment pas les moyens de nous rendre dans les grandes villes du Nord, aux États-Unis. Heureusement pour nous, tous les propriétaires des plantations n'étaient pas aussi cruels. Ma femme, par exemple, a travaillé sur une plantation tenue par un propriétaire blanc plutôt modéré. Cela dit, le mot modéré n'est pas le plus pertinent, car ce monsieur ne nous accordait que 3 mois de scolarité en hiver, au moment où la récolte du coton était impossible. Quand j'ai suivi mes premiers cours d'école à l'âge de 6 ans, en 1963, certains de mes camarades avaient 19 ans. Ils n'avaient jamais eu l'opportunité d'aller en classe plus tôt. Les Blancs ne voulaient pas que nous soyons des citoyens éduqués instruits. Certains enfants n'ont jamais suivi de scolarité normale. Pour les Blancs, apprendre à lire et à écrire était très mal vu. C'était une première étape vers notre émancipation et notre rébellion. À l'âge de 15 ans, ma mère a trouvé le moyen de nous envoyer à Chicago pour continuer nos études. De cette manière, elle nous évitait les champs de coton et les ordres intimés par le propriétaire blanc. Elle savait que nous n'avions pas la possibilité de dire non à notre oppresseur, alors elle nous éloignait de lui.
Quand nous avons 15 ans, elle allait sneak les boys à Chicago. And they would stay there and get a job and finish their education.
I got a kind-hearted woman. Anything that's worth for me. I got a kind-hearted woman. Anything that's worth for me. Let's see the eagle-hearted women. And they will not let me be.
This thing, it would be hot 365 days a year, 24 hours a day. Once you light this,
le poêle que vous voyez là était allumé 10 mois par an, quasiment 24 heures sur 24. Il ne fallait en aucun cas qu'il s'éteigne. Nous nous en servions pour cuisiner, pour chauffer l'eau et obtenir une température acceptable dans ce petit habitat. Voilà d'où vient le blues. C'était véritablement l'enfer dans le delta du Mississippi. Ma sœur est née dans les années 40, mais n'a pas la même vision que moi du Mississippi, car elle a pu s'échapper et vivre au nord, à Chicago. Tous mes frères et sœurs ont pu sortir de ce trou. Je suis le seul à être resté dans le Mississippi. Chaque fois qu'elle me voit, elle enrage. Pourquoi restes-tu ici? Il se trouve que j'étais le plus jeune, que l'on m'a protégé et que ma vision des choses n'est pas aussi radicale que la sienne. Quand j'organise des visites de ce lieu pour des personnes nées dans les années 40, 50 ou 60, ils ne veulent pas voir les vestiges de la ségrégation raciale. Ils ne supportent pas la violence de cette époque. Certains ne veulent plus jamais ressentir les émotions d'autrefois, car beaucoup d'entre eux ont vécu ici. Pour la communauté noire, le delta du Mississippi est l'endroit le plus misérable de la planète, d'où l'on ne peut s'échapper. Souvenez-vous qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas de voiture, n'avaient pas les moyens de s'offrir un billet de train. Ils étaient donc coincés ici. Comme disaient les Blancs d'autrefois, ce qui se passe dans le Delta reste dans le Delta. C'est aussi la raison pour laquelle il y a peu d'images de Noirs travaillant dans les champs de coton. Si vous aviez la chance d'avoir un appareil photo, il était immédiatement confisqué. Les seules photos de Noirs que vous connaissez ont été prises par des Blancs. C'était leur version de notre drame. Les Blancs hurlaient sur les Noirs et leur interdisaient de jouer le blues. Les Blancs n'aimaient pas le blues dans les années 50 et 60. Pour eux, c'était la musique du nègre qui remue son popotin. Ils détestaient cette musique.
Et les Blancs n'aimaient pas la blues music dans les 50s et 60s. Vous savez ce qu'ils appelaient la blues music? Butt busting music. They would say, shut up, you know, don't sing it, you know. And that's the way they would do it.
Écouter Sylvester Hoover, c'est ouvrir un livre d'histoire. Ce brave homme, d'une incroyable modestie, a pris le temps de nous emmener là où l'épopée des musiques noires et du peuple africain-américain s'écrivait. Il tenait d'ailleurs, et pour une bonne raison, à nous faire découvrir le cimetière à ciel ouvert de Greenwood, dans le Mississippi. Là encore, le patrimoine sonore des premiers bluesmen épousait le drame humain de la communauté noire américaine.
From 1871 until late 60s or early 70s, if you died 20 or 30 mile radius, you got a chance. All you's buried here.
De 1871 jusqu'à la fin des années 60, vous risquiez fort d'être enterré ici. C'était le seul endroit où l'on acceptait d'inhumer les Noirs. Voilà pourquoi vous trouvez tant de tombes ici. Nous ne sommes d'ailleurs plus capables d'enterrer qui que ce soit car il n'y a plus de place. Tant de Noirs ont péri ici. L'un des plus célèbres repose à cet endroit précis. Il s'appelle Robert Johnson. Sa sépulture est devenue un lieu de pèlerinage. Ses nombreux fans viennent ici pour lui écrire des poèmes, jouer de la musique tout en fumant des cigarettes multicolores. Certains laissent des lettres d'amour, des photos, etc. Je nettoie cette stèle deux fois par semaine et malgré tout, je retrouve toujours quelque chose laissé par un admirateur. Dernièrement, j'ai retrouvé une bouteille de whisky qu'un amateur de blues avait dû apporter en hommage à Robert Johnson. Les gens se déplacent à n'importe quelle heure pour honorer sa mémoire. Certains viennent en pleine nuit. Certains étudiants d'université organisent des concerts improvisés autour de sa tombe. C'est donc un endroit finalement très animé.
Some of the students from the university come out here and pledge their sorority out here. And it's just a busy place out here. When he was alive, he wasn't a legend. When he was alive, he was just Robert Johnson. I mean, he wasn't popular.
Quand il était en vie, il n'était pas une légende. Il n'était que Robert Johnson. Il n'avait aucun succès. Ce sont les musiciens britanniques, dans les années 60, qui l'ont rendu populaire. Ils ont commencé à jouer son répertoire et l'ont fait connaître au public du monde entier. Quand il jouait ici, dans le delta du Mississippi, Robert Johnson était un excellent musicien, mais sa notoriété n'était pas celle d'aujourd'hui. Les musiciens européens ont finalement grandi en écoutant sa musique et sont devenus célèbres grâce à lui.
I think the way it is now.
Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, ooh, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied.
Ce que vivent les États-Unis aujourd'hui est certes effrayant, dramatique, profondément émouvant, mais la mort de George Floyd n'est malheureusement que la conséquence désastreuse d'un système autoritaire, inégalitaire et pervers qui maintient les privilèges de l'homme blanc dans une société où l'illusion de la suprématie permet toutes les justifications. Sylvester Hoover, notre grand témoin du jour, se souvient des exactions honteuses perpétrées contre les Noirs il y a plus de 60 ans dans son Mississippi natal. Rien n'a changé depuis lors et pourtant, il continue à se battre contre les relents racistes de ses contemporains pour qu'un jour, ce venin disparaisse à jamais. Le nom de George Floyd va sûrement apparaître dans de futures compositions d'artistes bien inspirés. Mais que ces chansons en hommage à ce citoyen américain assassiné par un policier blanc zélé ne disparaissent pas trop vite dans les oubliettes de l'histoire. Comme nous le faisait remarquer notre guide dans le Mississippi, Sylvester Hoover, il faut entretenir la mémoire, même si la vérité des faits est difficile à entendre.
I've been doing it for 30 years. A lot of people get irritated, but I don't care. You know, the truth is the truth. I got it.
Cela fait 30 ans que je présente ces lieux aux visiteurs de passage dans le Mississippi. Beaucoup sont indisposés par mon récit, mais ça n'a aucune importance pour moi. Je dois dire la vérité. Comme je ne cesse de le répéter à ma femme, je n'ai pas besoin de prendre des notes, je ne fais que dire la vérité. Certains habitants du quartier refusent d'entendre mes propos. Ils ont lu dans les journaux ce qu'il s'est passé ici, mais n'ont jamais véritablement ressenti la violence de l'époque. Il faut se rendre dans le Mississippi pour que vos cinq sens captent la réalité. Ici, vous pouvez voir, entendre, sentir, goûter, toucher une part de notre histoire. Venez jusqu'ici. Ne vous contentez pas de lire des articles de presse. Tous ceux qui sont venus ici, notamment des journalistes comme vous, se sont ensuite fait l'écho de la ségrégation raciale avec beaucoup plus d'acuité et de pertinence. À vous de savoir retranscrire ce que vous avez ressenti. Les gens d'ici veulent cacher la vérité, toujours aujourd'hui. Certains sont enthousiastes à l'idée de me rencontrer, mais dès qu'ils franchissent la voie ferrée, ils font marche arrière. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. J'aimerais me procurer un bus pour emmener tous ces gens qui habitent ici, mais qui ne connaissent pas notre histoire. Certains vivent à Greenwood depuis 50 ans et ne sont jamais venus jusque dans le quartier noir. Alors que vous, vous avez fait des milliers de kilomètres depuis la France pour m'entendre raconter cette histoire. Je suis satisfait lorsque des Blancs viennent à ma rencontre et m'écoutent parler. Parfois, ils me disent qu'ils n'avaient jamais réalisé à quel point notre vie était difficile. La plupart des gens ici sont ignorants. Lorsque nous avons quitté Sylvester Hoover, ces paroles ont continué à résonner en nous. L'ignorance est en effet l'une des lacunes de nos sociétés. Quand il manque les mots pour se défendre, il ne reste que les poings pour se battre. Quand on ne connaît pas son voisin, la peur s'installe et se propage. Soyons à l'écoute, soyons curieux, soyons altruistes et tendons la main. Et même si la confrontation semble plus productive sur l'instant, elle n'engendre que rancœur et défiance. Qu'il est triste d'entendre un jeune garçon de 12 ans, Kidron Bryant, chanter son simple désir de vivre. C'est pourtant avec ce cri du cœur et avec l'espoir d'un monde apaisé que nous allons nous quitter. Nathalie Laporte et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre épopée multicolore. Dans quelques instants, le journal.
I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind. Every day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. Carrefour de